Le journal qui vous est présenté par Stéphanie Wenker, bonjour.
Bonjour. Trans-N cherche à acquérir 30 bus électriques à batterie d'ici 2026 pour renouveler sa flotte. Les transports publics neuchâtelois ont lancé un appel d'offres en ce sens. Cette fois, c'est confirmé, le pass sanitaire sera monnaie courante en France. L'Assemblée l'a confirmé hier soir. Une décision qui changera le mode de vie des Français, évidemment, mais aussi des étrangers qui se rendent dans le pays. La délégation suisse a récolté une deuxième médaille aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Bernois Mathias Flückiger a pris l'argent de la course de VTT. Tenant du titre, Nino Schurter échoue au pied du podium à la quatrième place. Le ciel restera plutôt mitigé cet après-midi sur la région. Les températures se maintiennent, elles, au chaud. Trans-N franchit une nouvelle étape en vue du renouvellement de sa flotte de bus. Les transports publics neuchâtelois ont publié un appel d'offres qui court jusqu'au 20 août. Ils sont à la recherche de bus électriques à batterie, plus précisément des trolleybus articulés déperchables. L'objectif est de remplacer les actuels bus à plafond haut qui circulent en ville de Neuchâtel et qui devront être retirés du trafic en 2024 pour respecter la législation en matière de personnes handicapées. Les véhicules thermiques qui sillonnent la Chaux-de-Fonds disparaîtront aussi de la circulation. Le point sur les bus recherchés avec Pascal Vuillemier, directeur général de Trans-N.
C'est un modèle à batterie, c'est un véhicule qui se situe entre le bus à batterie et le trolleybus, c'est-à-dire que les batteries seront rechargées au moyen de perches et il utilise les lignes de contact actuelles pour pouvoir recharger ces batteries. Il faut qu'il utilise les lignes de contact sur environ 20% du temps de parcours, donc ça veut dire qu'on peut rouler des très longues portions de parcours sans être perché. Nous avons fait des tests, par exemple, nous avons relié Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds uniquement avec l'aide des batteries.
Combien vous visez de véhicules finalement en termes de nombre ?
Pour l'appel d'offres, nous visons une première série de 18 véhicules pour fin 2023, donc dans deux ans, un peu plus de deux ans, et puis la dernière série de 12 véhicules pour 2026.
Des propos recueillis par Sonia Bernauer-Mia. Ces bus pourront être perchés ou déperchés automatiquement. Quatre entreprises sont susceptibles de proposer une offre selon Pascal Vuillemier. Trans-N prendra sa décision à l'automne pour que les nouveaux bus puissent être mis en circulation fin 2023. Et chaque véhicule peut coûter entre 600 000 et plus d'un million de francs. Coup de cœur du Val de Travers par une vallonnière. Mélanie Mère a grandi au Vallon et y vit désormais en famille. Il y a une année environ, elle a décidé de coucher sur papier son amour pour la région. Elle a rédigé un guide de près de 80 pages et y met en avant les randonnées, les lieux culturels ou encore les hébergements existants au Val de Travers. Une liste non exhaustive destinée à informer les futurs touristes qu'il y a beaucoup de choses à faire au Vallon. Mélanie Mère nous explique d'où lui est venue l'idée de se lancer dans l'écriture d'un petit guide.
Je suis maman au foyer et je suis très épanouie dans ce rôle. Ça me tenait à cœur de pouvoir rester avec mes enfants, mais j'avais envie de me trouver une autre activité qui soit hors du ménage, en fait, hors de la famille. Retrouver une activité, on va dire, professionnelle, sans devoir retourner dans le monde professionnel qui nous entoure. Nous, on adore voyager avec mon mari, donc je me suis dit, bah, tiens, si tu écrivais un guide, d'abord j'ai commencé par des randonnées, puis ensuite je me suis dit, bah, si tu veux vraiment parler du Val de Travers, il faut que tu montres qu'il y a beaucoup de choses à voir au Val de Travers, que ce n'est pas que les randonnées. L'idée du guide, elle est vraiment partie de là, et pour le Val de Travers, j'y suis née, j'y ai grandi, c'est vraiment ma région de cœur, quoi. Enfin, je pense que quand on est Vallonnier, ben le Vallon, c'est notre Vallon et d'en parler, c'est quelque chose qui me réjouissait et qui me plaisait, quoi, tout simplement. J'avais envie de le faire découvrir à ceux qui n'ont peut-être pas la chance de le connaître comme les Vallonniers le connaissent. Et ben voilà, à travers mes yeux et mon regard, ben j'ai voulu le faire découvrir.
Ce guide sur le Val de Travers se veut également à la page puisqu'il est garni de codes QR qui redirigent les interlocuteurs vers les sites internet des institutions mises en avant. Les cyclistes provoquent 10% des accidents graves sur les routes suisses. Le constat ressort d'une étude menée récemment par le Bureau de prévention des accidents, alors que l'année passée a été une année record pour la vente de vélos dans le canton de Neuchâtel. Selon le BPA, quelques 200 collisions faisant des blessés graves ou des morts sont causées chaque année en Suisse par des cyclistes qui ne respectent pas le code de la route. Le porte-parole du Bureau de prévention des accidents rappelle toutefois que ces usagers de la route subissent aussi le comportement inapproprié des autres utilisateurs. Écoutez Marc Kipfer.
Il faut souligner que les cyclistes sont souvent ceux qui sont victimes, sans faute de leur part, dans des collisions. Mais pour une fois, nous avons analysé maintenant les collisions qui sont causées par les cyclistes et ce sont quand même 200 collisions graves chaque année. Il y a par exemple de nombreux accidents dus à un refus de priorité par un cycliste. Et là, très très souvent, les cyclistes eux-mêmes sont blessés et c'est là qu'il faudra réagir maintenant.
Alors justement, hein, qu'est-ce qui peut être mis en place pour essayer d'inverser la tendance finalement ?
D'abord, il est important de sensibiliser les cyclistes pour ces comportements qui sont quand même dangereux pour eux aussi. Il faudra des contrôles de police aux endroits où c'est particulièrement souvent et particulièrement dangereux. Mais pour nous, il est aussi essentiel d'agir au niveau de l'infrastructure parce qu'il faut vraiment mettre en place un réseau de voies cyclables sûres avec peu de détours. Comme ça, on peut motiver les cyclistes à utiliser les voies cyclables. Et comme ça, il aura aussi plus de sécurité pour tout le monde.
Un sujet réalisé par Alexandre Rosset. Le Bureau de prévention des accidents souligne qu'en moyenne annuelle, le bilan de ces accidents est de 4 morts et de plus de 60 blessés graves. L'OFSP a constaté que les maladies infectieuses ont reculé de 20% en 2020 en comparaison avec l'année d'avant. Une baisse qui pourrait s'expliquer par les mesures de lutte contre le Covid-19 qui ont diminué les transmissions de virus de manière générale. Un changement de comportement au sein de la population aurait aussi été constaté selon l'OFSP. Le pass sanitaire a été définitivement validé en France. Le Parlement a trouvé un accord hier dans la soirée. L'usage du passeport sanitaire sera donc bel et bien élargi, comme Emmanuel Macron l'a souhaité pour lutter contre le coronavirus. Outre l'obligation vaccinale pour les soignants à partir du 15 septembre, le pass sanitaire promet de changer pas mal de petites choses en France. On fait le point avec Caroline Toussaint.
Le pass sanitaire va devenir le nouvel accessoire à la mode en France. Plus question de sortir sans lui, sous peine de se retrouver refoulé d'un musée, de la bibliothèque ou encore de la terrasse d'un café. À partir du 1er août, donc, il faudra montrer le précieux sésame dans de nombreux lieux publics et certains transports en commun. Un pass comme une preuve sanitaire que vous n'êtes pas infecté par le coronavirus puisque vacciné, testé négatif ou guéri depuis moins de 6 mois. Ça s'applique aux Français, mais pas que. Toute personne sur le territoire français devra montrer patte blanche ou plutôt passe blanc. Bon. Et pour ce qui est d'aller faire ses courses en France alors, parce que c'est la question que beaucoup de monde se pose. Emmanuel Macron annonçait le 12 juillet dernier vouloir imposer le pass sanitaire pour entrer dans un grand centre commercial. Au final, c'est un peu moins drastique. Ce sont les préfets qui décideront ou non de l'imposer selon les régions et le taux d'incidence du coronavirus. Philippe Bas, sénateur de la Manche, expliquait cette décision sur BFM TV.
Peut-être qu'il faut décider du port du masque, par exemple. Il faut bien sûr que les distances de sécurité soient conservées, mais dans les parties communes des grands complexes commerciaux, nous avons considéré qu'on ne pouvait pas, pour leur accès, imposer le pass sanitaire.
La loi sur le pass sanitaire s'applique à tous à partir de 12 ans, avec une tolérance pour les jeunes jusqu'à 17 ans. Jusqu'au 30 septembre, pas besoin de montrer le pass, un délai qui est destiné à leur permettre de se faire vacciner.
Et contrairement à ce qui avait été envisagé, les salariés des secteurs concernés par le pass sanitaire ne seront pas licenciés s'ils n'en disposent pas. Une partie de leur salaire pourra par contre être retenue. Coup de filet international dans le trafic d'êtres humains. Une opération coordonnée par Interpol entre le 5 et le 9 juillet dernier a permis l'arrestation de 286 suspects et le démantèlement de 22 groupes criminels. Cette opération Libertera a mobilisé des forces de l'ordre de 47 pays et a permis de sauver plus de 400 victimes du trafic d'êtres humains.
Vous écoutez RTN, il est midi et 24 minutes. Sport.
Ce n'était encore qu'une simple rumeur il y a quelque temps, elle semble se concrétiser. L'entraîneur de l'équipe de Suisse de football, Vladimir Petkovic, a demandé à être libéré par l'Association Suisse de football. Une information de l'équipe et du Blick ce matin. Le sélectionneur de la Nati serait en passe de signer avec le club de Bordeaux. Les précisions d'Alexandre Michler.
Une nouvelle qui tombe quelques jours seulement après l'Euro où la Suisse a tenu tout le pays en haleine. Ce n'est d'ailleurs sûrement pas une coïncidence si un club français s'intéresse désormais à Vladimir Petkovic après la victoire folle de la Nati contre la France. Souvenez-vous, mené 3-1, les Suisses avaient égalisé dans les arrêts de jeu pour ensuite éliminer les champions du monde en 8e de finale de la compétition. Selon le quotidien L'Équipe, les Girondins de Bordeaux ont pris contact avec Vladimir Petkovic il y a un peu moins de 10 jours et les deux parties seraient tombées d'accord sur un contrat de 3 ans. Une information également relayée par le Blick ce matin. Mais l'association suisse de football laissera-t-elle partir son entraîneur? La question reste encore ouverte, car il est tout à fait possible qu'elle n'accepte qu'en échange d'une compensation financière. De son côté, l'ASF a publié un tweet pour clarifier la situation ce matin. Elle précise que le sélectionneur possède un contrat courant jusqu'à la fin 2022 qui sera automatiquement prolongé en cas de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. L'ASF ne souhaite pas communiquer plus en détail sur ce sujet, même si elle confirme que des discussions sont en cours entre Bordeaux et Petkovic.
Et 2 Amazones neuchâteloises ont pris part au championnat d'Europe junior de saut d'obstacle qui se sont achevés hier à Vila Moura au Portugal. Dans l'épreuve reine réservée aux moins de 21 ans, Chirel Chorneau de Dombresson a pris la 44e place avec Obama du Soufflet, alors que Léa de Coulon qui montait Goldfinger Z s'est contentée du 57e rang.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Une 2e médaille olympique est tombée dans l'escarcelle suisse aujourd'hui à Tokyo. Après le bronze de Nina Christen à la carabine à air comprimé, Mathias Flückiger a pris la médaille d'argent de la course VTT ce matin. Le vététiste bernois s'est classé 2e derrière l'irrésistible britannique Tom Pidcock. L'espagnol David Velaro Serrano a pris la 3e place. Il s'est défait dans les derniers mètres de course du champion olympique en titre Nino Schurter qui se retrouve donc en chocolat. Le commentaire de notre envoyé spécial à Tokyo, Émilie Moumentaler.
Mathias Flückiger et Nino Schurter sont parvenus à durcir très vite la course. Ils ont ainsi opéré une sélection impitoyable sur un parcours exigeant. Les deux Suisses sont toutefois tombés sur plus fort avec Tom Pidcock qui se remettait pourtant à peine d'une fracture de la clavicule. Le Britannique a attaqué après la mi-course et seul Mathias Flückiger a pu suivre dans un premier temps avant de craquer pour finalement lui concéder 20 secondes au final. Victorieux ce printemps de la flèche brabançonne sur route, Tom Pidcock, à 21 ans, a fait étalage de sa polyvalence. Les 2 premières places scellées, une belle bagarre a eu lieu pour le bronze. Dans un premier temps, entre Nino Schurter, le néo-zélandais Anton Cooper et le français Victor Koretsky. Mais c'est l'espagnol David Valero Serrano, revenu de nulle part dans le 5e des 7 tours, qui a coiffé ce trio sur le poteau. Le tenant du titre Grison en tête qui échoue à 8 secondes du podium.
Et cette course a été marquée par la chute et l'abandon d'un des favoris, Mathieu Van Der Poel. Belinda Bencic poursuit elle sa route dans le simple dames du tournoi olympique de tennis. La Saint-Galloise s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les 8e de finale face à Misaki Doi, 6-2, 6-4. Victoria Golubic a en revanche échoué contre une autre japonaise ce matin, Naomi Osaka, 6-3, 6-2. Au prochain tour, Belinda Bencic devra en découdre avec la tchèque Barbora Krejčíková, récente lauréate du tournoi de Roland-Garros. En canoë, Thomas Koechlin n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du slalom monoplace. Il s'est classé 13e. Une déception pour le canoïste genevois. Écoutez.
Je pense que la préparation était top, je me suis éclaté, tout allait bien. Sur les qualifs, j'ai montré que je pouvais être super rapide, mais à chaque fois, il y avait un problème. Et là, c'est un peu pareil, sur les demi, il y a presque tout qui va, mais presque, du coup. Là, je suis sanctionné lourdement.
C'est les pénalités qui vous coûtent trop cher.
Ouais, là, j'ai plus 6, avec seulement plus 2, ça passait. Il n'y avait pas à faire grand-chose, parce que j'ai pas fait une manche rapide. Et j'étais sûr que si on enlève 2 touches, eh ben, je serais dedans, mais c'est pas vraiment ce que je retiens, là, parce que j'étais à côté. Dans un sens, je suis content, je me suis accroché jusqu'en bas, j'ai continué à y croire, mais j'étais quand même un peu à côté.
Des propos recueillis par notre envoyée spéciale à Tokyo, Émilie Moumentaler. Une 2e défaite en 2 matchs pour Sabrina Jacquet dans le tournoi de badminton, diminuée par une blessure au mollet gauche. La chaudefonnière s'est inclinée 21-10, 21-14 devant la Française Xi Guifei en match de groupe. Elle doit encore disputer un 3e match de poule dont l'objectif est de remporter un premier succès dans des JO avant de mettre un terme à sa carrière. Max Studer a signé une belle performance en triathlon. Le seul roi a terminé au 9e rang aujourd'hui à 1:02 du nouveau champion olympique, le Norvégien Christian Blumenfeld. Et le départ du triathlon féminin sera donné à 23h30 ce soir, soit 6h30 du matin à Tokyo. À 39 ans, Nicolas Spirig rêve d'une nouvelle médaille olympique après avoir arraché l'argent à Rio et l'or à Londres en 2012. Et selon elle, la course se jouera déjà en partie lors de la natation.
Ce qui a changé chez les femmes, c'est que maintenant, il y a très souvent 6 ou 7 nageuses rapides qui nagent devant et qui par la suite travaillent très bien ensemble sur le vélo. En 2016, ce n'était pas comme ça. Il y avait Gwen Jorgensen qui a très bien couru, mais il n'y avait pas ce petit groupe devant qui nage bien et qui roule bien sur le vélo. C'est la tactique ou le déroulement de la course qui a quelque peu changé.
Du côté du beach volley, la paire helvétique formée d'Anouk Verger-Després et de Johanna Heydrich fera son entrée en lice dans le tournoi féminin cet après-midi vers 14h. Le tournoi de basketball a été marqué de son côté non seulement par la défaite des États-Unis contre la France hier, mais aussi par l'impressionnante démonstration d'un joueur slovène. Auteur de 48 points, Luka Doncic a été prodigieux contre l'Argentine. Il a ainsi permis à la Slovénie d'écraser l'Argentine 118-100. Belle suite de journée à toutes et à tous.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Merci beaucoup Stéphanie. 12h31 très exactement. On jette un coup d'œil à la météo des plages juste après la météo du ciel. Pour débuter la semaine, les experts de Météo News nous annoncent un temps changeant. On aurait dû avoir quelques rayons de soleil en cette fin de matinée. Ça n'a pas vraiment été le cas et cet après-midi, il y aura un développement et une arrivée de quelques averses sur la région et des orages qui éclateront sur le Jura tout d'abord avant de déborder sur le littoral. Si le ciel fait de nouveau des siennes, le thermomètre lui reste agréable. On reste à 19 degrés sur les hauteurs du canton, 22 degrés à Fleurier, 24 à Neuchâtel et Payerne ou encore 25 à Yverdon au meilleur de la journée. Demain, il y aura encore de bons moments d'ensoleillement aux premières heures du jour, puis arrivée de passages nuageux et quelques averses possibles, température agréable et à la peine, hein, très léger en deux saisons et à peine de saison, maximale de 18 à 20 degrés à 1000 mètres d'altitude.